d'électronique ou de machinerie lourde, il n'y a rien à notre épreuve. Depuis plus de 20 ans, Monnet Express déménage des particuliers et des entreprises de la province de Québec. Vous déménagez? Un seul numéro à retenir. 418-840-1234. Monnet Express, les déménageurs qui déménagent. Où est-ce qu'on retrouve la meilleure ambiance pour les parties des fêtes? La Belle et la Bœuf. Ben oui! Si tu veux un party hors de l'ordinaire, va pas dans un resto ordinaire. Choisis celui le plus trippant. Choisis la Belle et la Bœuf. En décembre, c'est la Belle et la Bœuf, place Sainte-Foy.
Le temps des fêtes, c'est nos traditions.
Bon, aujourd'hui, on fait le sapin. Les bottes dans le bain! Oh, j'étais 40 à tourtière.
Et cette année,
on va donner du sang.
C'est le temps d'en faire une tradition. Prenez rendez-vous à une collecte de sang sur le site web d'Emma Québec.
Il paraît que l'école est fermée jusqu'à nouvel ordre. J'ai sorti mon set de ski de fond usé à la corde. Tantôt on va regarder si des cadeaux dans ce sol. On est arrivé à temps. C'était tant que le temps des fêtes se pointe du bout du nez. On te souhaite des bonnes années, grand nez.
S'offrir du temps ensemble, c'est magique. Ciné-cadeau, tous les jours à la télé, sur le web et l'appli de Télé-Québec.
Vous avez toujours un ordinateur avec Windows 10? Pensez aux promotions du temps des fêtes de PC en vrac pour passer à Windows 11. Des centaines d'ordinateurs remis à neuf en inventaire. À Sainte-Foy, Saint-Nicolas et Charlebourg, PC en vrac, votre équipement informatique à prix imbattable.
Choix.
Choix.
98.
98.
1.
L'original.
Choix. Radio X à Québec, c'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion.
Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X Files.
Avec Christian Page.
Oh my gosh.
Radio X.
Bon vendredi, bienvenue dans les Radio X-Files sur les ondes de choix 98h Radio X. Dernière avant la période des fêtes, avant Noël et le jour de l'an. On sera de retour en janvier, bien sûr, mais bon, c'est la dernière avant les fêtes. Bonsoir, Christian Page.
Bonsoir, Nick.
Comment vas-tu?
Ça va très bien.
Oui?
Écoute, je vais apprécier la petite pause du temps.
Assurément.
Des fêtes. Là. J'ai comme, je suis toujours embarqué comme dans 1000 projets. Là, puis, à un moment donné, là, je suis un peu à bout de souffle. Et cette petite pause-là va me permettre un peu de me mettre un peu la tête hors de l'eau. Parce que là, j'ai souvent l'impression que j'ai de l'eau dans le nez. Là.
Ouais, je comprends. Puis la période des fêtes nous donne, pour certains, là, ce petit deux semaines-là de répit, malgré que d'autres sont très, très, très occupés également. Là. Avec la famille et tout ça.
Oui. Tu vois, moi, j'ai... Je peux le dire. J'ai un livre, Chronique de l'étrange, tome 2, qui sort ce printemps. Et j'en avais un. Le premier est sorti il y a quelques mois. Puis là, il y a un deuxième tome qui va sortir.
Ah, c'est
et,
super.
Oui, je suis très content. D'ailleurs, merci à tous les gens qui nous écoutent, qui se sont procurés le livre en librairie. Ça a été un gros succès. Quand j'ai fait ma conférence là cet automne à Québec,
oui.
Je sais que les gens étaient très réceptifs aussi. J'ai eu de très, très bons commentaires. Parce que ce livre-là, faut quand même le dire, c'est en fait une approche que je n'avais pas tentée dans le passé. Moi, quand j'ai écrit, là, j'en suis rendu à 17 ou 18 livres dans ces alentours-là. Et... quand j'écris, généralement, je consacre énormément d'espace à chacun de mes sujets. J'aime bien aller dans le détail. On dit souvent que le diable se cache dans les détails. Donc, je vais dans le détail, mais en même temps, ça s'adresse à un public qui est un public de lecteurs, tu comprends? Donc,
oui.
Des gens qui vont s'asseoir, puis ils vont prendre un livre, puis eux, ben, lire un chapitre de 50 pages sur la zone 51, par exemple, ou sur Bob Lazar, ça les intéresse. Donc, on va dans le détail, et ça, c'est ce qu'ils recherchent. Mais en même temps, il y a tout un lectorat qui était mis de côté. C'est le lectorat qui préfère des histoires courtes, où on va directement à l'essentiel et on passe à autre chose. Et ce lectorat, je dois l'avouer, je l'avais un peu négligé avec ma façon d'écrire. Et cette idée, donc, les chroniques de l'étrange, ça s'adresse à ce lectorat. Donc, chaque histoire se résume sur 2 ou 3 pages seulement.
Okay.
Donc, on peut rapidement lire. On est dans le métro, on est dans les transports en commun, on va en lire 1 ou 2 histoires avant d'arriver à destination. Donc, c'est un nouveau lectorat. Évidemment, quand on aborde une nouvelle formule, on ignore toujours quelle va être la réception du public. Et dans le cas présent, ben, je l'ai vu avec le public autant à Montréal qu'à Québec. Quand j'ai donné ma conférence cet automne, les gens ont beaucoup apprécié cette formule courte. Et donc, je suis content d'annoncer qu'il y aura un deuxième tome. Et je vais profiter un peu. J'ai pas eu encore le... Je sais que ce matin, l'éditeur m'a dit qu'on était à la mise en page. Et donc, on va m'envoyer avant la période de Noël, on va m'envoyer le manuscrit complet, remonté. Donc, ça va me donner l'occasion de le relire pour apporter les dernières corrections, tout ça. Mais bon... Mais ça, c'est quand même... C'est plus agréable. Oui, on dit, bon, on est tranquille, on est à la maison, on lit ça. C'est pas comme avoir un mandat précis de dire, bon, faut que je fasse une émission de télé, faut que je fasse un podcast, faut que je fasse une émission de radio. Donc,
c'est différent.
Un peu plus... Oui, absolument. Donc, on peut se permettre d'être un peu plus laxiste, oui. Puis en mou. Tu sais, le mou, là.
Le mou fait du bien.
À la maison, ouais, ouais. Ah oui, t'es en mou, tu dis ça fait du bien. T'sais.
Absolument. Pas trop d'horaire, puis on y va à notre rythme. Ça, c'est parfait. Puis, Christian, parlant du public, le public t'a pose beaucoup de questions, puis comme dernière émission avant les fêtes, on va se concentrer sur ces questions-là du public.
Oui, absolument, parce que ce sera quasiment une émission style OVNI ou ouais. Thématique OVNI, parce que, d'abord, il y a un événement cette semaine qui est une date anniversaire, donc évidemment, je m'attendais à avoir des questions là-dessus, mais il y a deux, trois semaines, on avait fait, dans notre émission thématisée sur les OVNI, j'avais fait une critique assez vilipendaire sur la sortie d'un nouveau documentaire qui s'appelle The Age of Disclosure, en anglais, en français, c'est L'Âge de la Transparence. Donc, j'avais été un peu assez mordant par rapport à ce documentaire. Visiblement, des gens qui l'ont regardé n'ont pas nécessairement vu la même chose que moi. Donc, on m'a posé des questions à ce sujet-là. Donc, j'ai décidé de les regrouper et on va essayer d'aborder cette question-là, ces questions-là, en fait, qui remettent en perspective non seulement le documentaire, mais le discours qui est tenu dans ce documentaire.
D'accord.
Donc, si tu le veux bien, bon, d'abord, avant d'entamer la première question des gens, il faut quand même le dire, parce que je sais que ça fait 1000 fois que je le répète, à toutes les fois où on aborde la question des ovnis, on en revient toujours un peu à cette question-là, et je le précise, un débat sur les ovnis n'est pas un débat sur la vie sur d'autres planètes. Hein, des gens me disent, oui, ben Christian, tu ne crois pas aux ovnis, comment peux-tu être aussi naïf et ne pas croire qu'il y a de la vie ailleurs? C'est pas le débat. Le débat n'est pas la vie ailleurs, c'est le débat, c'est les ovnis. Donc, la vie ailleurs, je tiens encore une fois à le préciser, sur le plan de la science, si on posait la question à peu près à l'ensemble des astrophysiciens à travers le monde, la vie, d'abord la vie primaire, hein, si on parle par exemple de micro-organismes, on a déjà de très, très bons candidats dans notre propre système solaire qui pourraient abriter la vie. Hein. On pense par exemple, à des lunes de Jupiter ou des lunes de Saturne qui pourraient avoir des formes de vie, et peut-être même dans le sous-sol de Mars, pourraient avoir une vie très primitive, là, sous forme de microbes ou de bactéries ou tout le reste. Donc ça, les premières briques de la vie ou les premières formes de la vie primitives, on a les astrophysiciens, puis il y a une discipline dans le domaine de l'astrophysique à propos de cette recherche de vie extraterrestre qui s'appelle l'exobiologie. Donc si on posait la question aux exobiologistes. Ne pas confondre, les exobiologistes ne sont pas des ufologues. Hein, et eux recherchent vraiment de la vie sous différentes formes sur des planètes ou des lunes ou peu importe. Donc, si on posait la question aux exobiologistes, ils diront, ben oui, la vie existe, tout le moins sous ses formes primaires, c'est très certain. Possiblement, même dans notre propre système solaire, on a de ces formes de vie. Maintenant, la question, est-ce qu'il y a des vies plus intelligentes dans le cosmos? On ne le sait pas,
non.
Mais c'est sûr que les nombres, la grande, hein, c'est un
les
peu la loi des nombres.
Les probabilités jouent en faveur de...
Oui, c'est ça, tu as tout à fait raison. C'est la loi des nombres. Hein. Quand on regarde essentiellement dans notre galaxie, la Voie lactée, on estime entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Je dis bien des milliards, là, entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Et les astrophysiciens estiment à peu près qu'une étoile sur deux doit avoir des planètes qui gravitent autour, hein, comme c'est le cas, par exemple, avec notre système solaire. Donc, on peut imaginer qu'il doit exister des planètes qui sont dans la bonne distance, parce que, bon, encore une fois, on n'a pas de certitude, mais comme la vie sur Terre est basée sur le principe du carbone, hein, le carbone avec un diluant qui est l'eau, hein, donc l'hydrogène, l'oxygène, comme ce sont des matières première qu'on retrouve en abondance dans l'univers, ben, il y a de fortes chances que la vie sur d'autres planètes soit basée sur les mêmes matériaux, hein, carbone, hydrogène, oxygène. Ça veut pas dire qu'ils auraient la même forme que nous, là, humanoïdes avec deux yeux, deux bras, deux jambes, là, mais le principe de base devrait possiblement être le même. Même s'il y a d'autres combinaisons possibles, la silice, le sable, si tu préfères, ouais. La silice et l'ammoniac pourraient fonctionner aussi. Mais le développement serait très, très lent parce que l'ammoniac est liquide seulement de très, très basse température et plus les températures sont basses, bien, plus les échanges chimiques sont lents. Donc, mais c'est possible. Mais on peut supposer raisonnablement que si la vie existe ailleurs dans l'univers, elle doit exister sur des principes hydrogène, carbone et oxygène, comme c'est le cas sur Terre. Maintenant, est-ce que cette vie-là existe sur d'autres, dans d'autres? On sait que dans notre système solaire, on est la seule civilisation avancée. Mais est-ce que des formes semblables, des civilisations, peuvent exister ailleurs, soit dans notre galaxie ou dans d'autres galaxies? Parce que là, encore une fois, hein, je dis, dans le nombre d'étoiles dans notre galaxie, c'est entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Ouais. Et là, on ne parle que de notre galaxie. Et combien y a-t-il de galaxies dans l'univers? Ben, des centaines de milliards aussi.
C'est
des centaines de milliards. Oui, c'est ça. Donc, des centaines de milliards multipliés par des centaines de milliards. À un moment donné, tu dis, la combinaison statistique est là. Mais, encore une fois, on n'a pas la preuve de ça. Peut-être que... Le débat est là. Les différents scénarios sont sur la table. Puis, il n'y en a pas un qui peut dire « j'ai la vérité ». Ce sont différents scénarios qui vont que la vie intelligente des civilisations doivent pulluler dans l'univers vers des estimations beaucoup plus réduites qui voudraient que peut-être qu'au moment où on se parle, on est la seule véritable civilisation avancée qui existe dans l'univers. On n'est pas la première, on n'est pas la dernière, mais au moment où on se parle, aujourd'hui même, là, dans l'espace-temps, on est la seule.
Oui.
C'est possible aussi. Donc, on voit que tous les scénarios sont sur la table. Mais ces scénarios-là, faut-il le préciser, n'ont strictement rien à voir avec les ovnis. Les ovnis, ce n'est pas ça. Les ovnis, ça peut avoir un lien avec la vie extraterrestre, ça peut ne pas en avoir aussi. Hein? Bon, il y a différents scénarios. Et la question ici, c'est est-ce que les ovnis, hein, sont des preuves de ces visites extraterrestres ou encore de visites, parce que depuis quelques années maintenant, on a d'autres scénarios. Jusque dans les années 2000 à peu près, les seuls véritables scénarios qui étaient envisagés, c'était les visites extraterrestres. Et là, depuis quelques années maintenant, avec l'avènement de nouvelles hypothèses, de nouvelles visions. Hein. Ce sont des modèles que les astrophysiciens proposent. Puis ce sont des modèles qui sont tout à fait réels. Ce n'est pas des trucs sortis de l'imagination d'une espèce de zigoto. Là. Mais c'est vrai que les astrophysiciens, avec les nouvelles découvertes les plus récentes dans le domaine de la physique, et notre physique quantique, par exemple, on se dit peut-être qu'il pourrait exister des univers gémellaires, d'autres dimensions, des univers parallèles. Donc, on a toutes sortes d'hypothèses qui sont proposées. Donc, quand on parle d'OVNI, la grande question, c'est est-ce que les OVNI sont des visites extraterrestres ou encore des visites de visiteurs d'autres dimensions, d'autres univers parallèles ou peu importe. Mais on comprend que quelque part, quelle que soit l'étiquette qu'on va coller, on est ici en présence d'une réalité exotique, appelons-la comme ça, la réalité exotique des ovnis. Et c'est ça la question. Donc, est-ce que les ovnis sont une réalité exotique, extraterrestre ou autre dimension ou autre, et ça n'a rien à voir avec l'idée de est-ce que de la vie ailleurs dans l'univers. Donc, faut bien recadrer ce débat-là parce que, encore une fois, je l'ai vu là, au cours des deux dernières semaines parce que j'ai été particulièrement critique avec ce documentaire là, The Age of Disclosure, l'âge de la transparence. Des gens mélangent un peu ce discours-là en me disant oh, tu ne crois pas à la vie ailleurs dans l'univers. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est est-ce qu'on est visité par des extraterrestres? Absolument.
Ouais, ouais.
Donc maintenant, revenons là-dessus.
Oui.
Si on parle essentiellement de la question des « sommes-nous visités », les gens me posaient la question, à les écouter, ils me disent, à vous écouter parler, vous ne pensez pas que le gouvernement nous cache quoi que ce soit sur les ovnis, c'est un modèle de transparence, puis et c'est pas ça non plus que je prétends. Là. Si tu me poses la question, Nick, est-ce que le gouvernement nous cache des choses sur les ovnis? Je te répondrai que du tac au tac, que la question est très large et tout dépend de ce que tu entends par ovni. Parce que techniquement parlant, les ovnis, ces objets volants non identifiés, là, dont on laisse l'origine un peu en suspens, bien, si on prend la question de manière très, très large, bien, au cours des 70-80 dernières années, les faits montrent que le gouvernement n'a pas toujours fait preuve de transparence sur la question des ovnis, et pour différentes raisons. Bien souvent, c'était des raisons secret défense. Donc, on peut ça peut être des secrets légitimes, hein, que le gouvernement nous cache des informations. De façon dont comment fonctionnent les radars ou ces systèmes-là, ben, ça peut être tout à fait justifié. Et l'histoire montre, tu sais, j'ai en mémoire, par exemple, deux histoires d'ovnis qui ont très marqué le folklore sur les ovnis, qui remontent aux années 40 et qui nous montrent bien que le gouvernement n'a pas toujours fait preuve de transparence pour la question des ovnis. Le premier événement, c'est, puis encore une fois, hein, c'est mon opinion, oui. Puis je lance les faits comme ça. C'est une opinion de journaliste, là. Je suis pas un mordicus accroché à une version, là. Mais bon, ce que l'on sait maintenant, c'est que, bon, ben, dans les années 40, en fait, en 1947, l'armée américaine procédait, c'était la guerre froide à l'époque, et on procédait à différents essais ou différentes techniques. On développait des techniques, notamment pour espionner les Soviétiques. On voulait savoir, notamment, si les Soviétiques avaient l'arme atomique et quels étaient leurs avancements sur l'hégémonie américaine en termes militaires. Et donc, on avait développé notamment, à l'époque, on n'était pas encore avec des avions espions, évidemment, on était 20 ans avant les satellites, donc on avait développé des mécanismes qui consistaient principalement en l'envoi de ballons dans la haute atmosphère. Et, bon, en 1947, l'armée américaine avait un de ces ballons, un projet qu'on appelait le projet Mogul. Et ce projet Mogul, ben, c'était des ballons qui avaient des systèmes acoustiques. Et on espérait, avec ces systèmes acoustiques, s'ils étaient placés en très haute atmosphère, qu'on pourrait entendre, entre guillemets, le bruit d'une détonation atomique en Union soviétique. Donc, si on entend le bruit d'une bombe qui explose en Union soviétique, ben, les Américains ont dit, tiens, voilà, les Soviétiques ont la bombe atomique. Donc, le projet Mogul, c'était principalement l'envoi de ces ballons avec ces systèmes acoustiques. Selon ce que l'on sait, l'un de ces ballons se serait écrasé dans le désert de Roswell au Nouveau-Mexique en juillet 1947, au début du mois de juillet 1947. Puis quand je dis début du mois de juillet, là, disons que la fourchette est large.
Oui,
disons,
okay.
entre les deux dernières semaines de juin et les deux premières semaines de juillet. Donc, durant ces quatre semaines-là, un de ces ballons, parce que ces ballons-là, on le comprend, pouvaient rester des jours et des jours dans l'atmosphère. Donc, l'un de ces ballons se serait écrasé dans le désert de Roswell et aurait donné naissance au fameux mythe de la soucoupe volante écrasée dans le désert de Roswell, l'incident de Roswell, qui aurait été l'un de ces ballons, ballon Mogul. Et on comprend que si c'est vrai, hein, si c'est l'explication, puis je respecte les gens qui me disent non, c'est pas ça, puis c'était une soucoupe avec des extraterrestres. Ouais. La croyance, elle est légitime, puis je veux pas revenir là-dessus. Mais si on en croit la version de l'armée, ben on comprend que lorsque le ballon en question a été retrouvé dans le désert, on a voulu taire ça en essayant de minimiser cette découverte. Parce que les gens qui ont été impliqués dans cette découverte ont dit, tiens, c'est curieux, hein? Il y a comme des composantes qui nous semblent étranges. La composante la plus étrange, c'était une espèce de papier d'aluminium que si on le froissait, il reprenait sa forme. Et ça, bien évidemment, le papier d'aluminium, là, en 1947, c'est le fameux papier d'aluminium foil que tu utilises chez toi là, pour faire tes grillades. Donc, si tu le plies, là, il se dépliera pas. Il va rester plié. Ouais, hein. Tu peux faire une petite boulette de papier, là, elle se dépliera pas. Donc, on comprend que les gens qui ont vu ça ont trouvé que c'était une matière qui était tout à fait exotique. Et bien sûr, les Américains ont dit non, c'est un simple ballon qui est tombé, un ballon météo. Il n'y avait rien d'exotique là-dedans. En réalité, aujourd'hui, avec le recul, si cette explication du ballon Mogul est la bonne, ben on comprend, on le sait, parce qu'on a les devis techniques des ballons Mogul, et on sait que certaines composantes, notamment les enveloppes du ballon, étaient fabriquées dans un papier d'aluminium, le même papier d'aluminium qu'on utilise aujourd'hui dans des fêtes d'enfants. Là. Tu fais des ballons, là.
Ton petit
garçon, là, dans une fête, puis là, tu vas acheter des ballons là, au magasin à 1$, là, des ballons en aluminium qu'on gonfle à l'hélium. Mais si tu prends ce papier-là d'aluminium, puis tu le froisses, puis tu le relâches, il va reprendre sa forme. Il va il va avoir des plis quand même, mais il va se déplier. Hein? Et c'est un peu le même papier d'aluminium également qu'on retrouve dans l'industrie alimentaire. Hein? Nos fameuses barres tendres, hein? On peut faire l'expérience. Quand tu l'ouvres, ta barre tendre, bien, si tu prends le papier d'aluminium qui l'entoure, hein? l'enveloppe, ta froisse puis ta relâche, elle va se déplier. Hein, et c'est un papier d'aluminium. En fait, c'est un millard aluminisé qui fait ça. Et en 1947, seule l'armée avait accès à ce papier-là. Le papier avait été développé durant la Deuxième Guerre mondiale par les Britanniques. Il avait été racheté par la compagnie Dupont, hein, une célèbre compagnie notamment de la peinture et tout le reste. Là, et Dupont avait développé ce papier-là, ce fameux millard argenté, qui était plus léger que les enveloppes de ballon ordinaires et qui était plus résistant, permettait au ballon de monter plus haut avant d'éclater. Donc, on avait... la compagnie Dupont était le consultant de l'armée américaine pour la question atomique à ce moment-là. Donc, on sait maintenant que Dupont ont proposé le millard argenté pour fabriquer certaines enveloppes de ballons Mogul. Donc, tu comprends que si le ballon tombe, il s'écrase quelque part dans le désert, puis que l'enveloppe est faite de papier aluminisé, comme nos bartendres, par exemple, mais que toi, la seule chose que tu as jamais vue dans ta vie comme papier d'aluminium, c'est le fameux papier foil avec lequel tu fais tes grillades, tu vas trouver ça mauditement extraordinaire.
Absolument.
Donc, ça, c'est une explication. Encore une fois, là, je respecte ceux qui disent « Non, c'est un vaisseau extraterrestre avec des aliens. » C'est correct.
Okay.
Mais on comprend que si l'explication du ballon Mogul est la bonne pour l'affaire de Roswell, on comprend que les militaires ont tout fait pour dissimuler la véritable nature des composantes de ce ballon-là. Et un autre événement qui a beaucoup marqué la communauté sur les amateurs d'OVNI, hein, c'est un événement qui se passe en fait quelques mois plus tard. On est en janvier 1948. De mémoire, c'était le 7 janvier 1948, il y a un OVNI qui a été détecté dans le ciel du Kentucky et on avait envoyé à ce moment-là, il y avait trois appareils, des P-51, des appareils à hélice, là, mais des très performants, là, des turbopropulsés à hélice. Là. Et les P-51 étaient en vol à ce moment-là au-dessus du Kentucky. Et là, on a détecté, ou les gens ont observé, une espèce de grosse boule lumineuse dans le ciel et on a envoyé trois de ces chasseurs. Et l'un des chasseurs était piloté par un jeune capitaine de l'armée américaine qui s'appelait le capitaine Thomas Mantell. Et à un moment donné, Mantell communique avec la tour de contrôle, dit « Bon, je le vois, l'objet, il est au-dessus de moi, il semble fait en métal, je vais essayer de le poursuivre. » Et là, Mantell va éventuellement grimper, et en fin de journée, on va retrouver son avion écrasé près de Franklin, au Kentucky. Et l'appareil, là, évidemment, des gens dans le milieu des ovnis, on dit « Ah, l'appareil a été désintégré par une espèce de rayon de la mort, par un ovni. » Mais dans les faits, les recherches sur le terrain montrent que l'avion, lorsqu'il s'est écrasé, il s'est écrasé entier. Hein. L'appareil n'a pas été désintégré en vol. Il s'est désintégré en percutant le sol. Et ce que l'on sait, c'est que l'anémomètre et les systèmes à l'intérieur de l'appareil montrent que l'avion était monté. Il faut quand même savoir que les P-51, leur altitude moyenne était 4 ou 5 000 mètres d'altitude. Ça, c'était l'altitude moyenne des appareils. Or, l'appareil de Mantell montre que ce jour-là, Mantell a grimpé au-delà du 20 000 pieds d'altitude, ce qui excède de très, très loin les capacités du P-51. À tout le moins, du P-51, si tu n'as pas de masque inhalateur d'oxygène à bord. Ce que Mantell avait la possibilité d'un masque oxygène, mais il ne fonctionnait pas. Donc, ça veut donc dire qu'il est monté à 20 000 pieds sans masque inhalateur d'oxygène à la poursuite d'un objet, hein, métallique et rond, comme il disait, et qu'éventuellement, en atteignant cette altitude, il a manqué d'oxygène, un phénomène qu'on appelle l'anoxie. Et à partir du moment où le cerveau n'est plus oxygéné, ben, il y a une espèce d'ivresse de l'altitude qui va s'imposer, et souvent, ça va se suivre par une perte de conscience. Et donc, Mantell a perdu conscience à bord de son appareil, qui est entré dans une vrille mortelle, et l'appareil s'est écrasé. Quelle était la nature de cet objet? Ça semble très mystérieux, mais en fait, on sait aujourd'hui qu'à ce moment-là, encore une fois, dans le cadre de programmes d'espionnage, les Américains, on a parlé du projet Mogul dans le cas de Roswell, mais dans le cas du capitaine Mantell, on parle davantage d'un autre type de ballon, un autre programme secret qui s'appelait le programme Skyhook, et qui consistait également à utiliser des ballons, sauf que les ballons de Skyhook, eux, étaient équipés de systèmes de senseurs qui auraient permis de détecter de la radioactivité. Donc, on s'était dit, encore une fois, c'est toujours l'idée, est-ce que les Soviétiques ont l'arme atomique? Donc, on envoie en haute altitude un appareil, et cet appareil avec des systèmes qui permettent de détecter la radiation, ben voilà, on va savoir si les Soviétiques ont cette arme atomique. Donc, il est fort probable que Mantell a poursuivi un ballon Skyhook, et il a commis l'erreur de croire que l'objet était plus proche de lui. Quand il volait à 4 000 ou 5 000 mètres d'altitude, il dit, bon, ben voilà, l'objet est au-dessus de moi, je vais le poursuivre. Visiblement, il estimait que l'objet était peut-être beaucoup plus près qu'il ne l'était en réalité. Et là, il grimpe, et éventuellement, il perd conscience. Donc, on comprend que là aussi, l'armée ont essayé de dissimuler l'affaire.
Ouais.
Donc, si tu me poses la question, est-ce que l'armée a caché des choses? Bien sûr, ils ont caché également l'utilisation d'avions secrets, les technologies des avions furtifs. Là. D'abord, on a eu le U-2 qui a été développé là, dans les années 50, avion d'espionnage américain. Ensuite, suivi d'appareils comme le SR-71 Blackbird, le F-117 Stealth Fighter. Donc, est-ce que l'armée cache de l'information sur des projets secrets qui ont pu être, à un moment donné ou un autre, impliqués dans le dossier des OVNI? Bien, très certainement. La question, c'est pas tant ça que de savoir est-ce que le gouvernement détient de l'information. C'est ça, voilà. Qu'est-ce qu'on cache? Est-ce que le gouvernement américain détient réellement des informations sur des vaisseaux spatiaux extraterrestres, sur la présence d'extraterrestres qui seraient gardés quelque part dans des hangars ou tout le reste? Là, évidemment, ça devient beaucoup plus litigieux. Et moi, je pose la question, et on connaît tous le principe, à une affirmation extraordinaire demande une preuve extraordinaire. Donc, si quelqu'un me dit, le gouvernement américain a réellement récupéré des engins spatiaux extraterrestres, moi, je pose la question, parfait, mais avant d'y croire, j'aurais besoin d'une preuve plus éloquente que quelqu'un qui me dit « j'ai entendu parler de ça par mon beau-frère ». Tu sais, tu comprends? Et là, jusqu'à maintenant, il faut quand même le dire, 80 ans après, disons, l'ère moderne des ovnis, on n'a toujours aucune preuve que les ovnis, que derrière les ovnis, se cache une présence, disons, exotique, soit des extraterrestres ou des visiteurs d'une autre dimension. On n'a pas cette preuve-là. Donc, je pense que la sage décision, la sage position, c'est de rester prudent. C'est pas impossible, c'est très
improbable, mais on n'a pas de
preuve. Mais on n'a pas de preuve. Voilà.
Christian, si tu le permets, on pourrait faire une courte pause publicitaire et revenir avec d'autres questions du public.
OK, parfait.
Donc, bougez pas. C'est les Radio X-Files sur les ondes de choix 98 Radio X.
Radio X-Files. Execute
program. Avec Christian Page.
Radio X. Capsule.
Radio X.
Rôtisserie fusée. Pas le temps de faire à souper? Pas de problème. Gâtez-vous avec le duo des fêtes, cuisses et poitrine pour seulement $19.99 au comptoir. Des frais de livraison s'appliquent. Rôtisseriefusée.com. Beauport Nissan est fier de s'impliquer dans la guignolée des médias et ainsi soutenir les banques alimentaires qui font une différence dans nos communautés. Tout le mois de décembre, vos deux concessions Nissan recueilleront vos denrées non périssables et vos dons en argent. C'est la période des fêtes chez Tanguay, le moment idéal pour trouver les meilleurs cadeaux ou vous gâter un peu. Jusqu'au 17 décembre, à l'achat de $1,250 ou plus de produits sélectionnés, on vous offre jusqu'à $1,000 en carte promo Tanguay. Tanguay, on meuble vos traditions. Aux Épices du Guerrier, on vous propose des tas d'idées cadeaux pour tous les budgets. Pas facile de plaire à la belle-mère, au cousin ou même à sa douce moitié? Passez-nous voir à la boutique du Guerrier, coin de la Faune et boulevard de la Colline. Des épices originales, savoureuses et faites chez nous, ça fait vraiment plaisir à recevoir. Épicesduguerrier.com.
Lorsque vous êtes malade et que vous avez des questions sur votre état de santé, plusieurs choix s'offrent à vous. Appelez au 811 ou consultez votre pharmacien pour savoir comment vous soigner à la maison. Si le problème persiste et que vous avez un médecin de famille, contactez votre clinique pour obtenir un rendez-vous. Si vous n'avez pas de médecin, utilisez le guichet d'accès à la première ligne pour être dirigé vers le bon professionnel. Pour plus d'efficacité, assurez-vous de recevoir le bon service par le bon professionnel au bon moment. Il existe d'autres options que l'urgence. Informez-vous au québec.ca/accès-santé. Un message du gouvernement du Québec.
Salut Karine!
Ah, allô Nissan! Hey, tu sais, l'hiver, il faut être bien équipé si on va en profiter, des bonnes bottes, des bonnes mitaines. Mais côté véhicule, on conseille quoi pour les grosses bordées?
Ah, le Nissan Rogue S 2026 à traction intégrale, avec ses caractéristiques de série comme ses rétroviseurs chauffants, ses sièges avant chauffants, son volant chauffant, même plus besoin de mitaines!
Ouais, sauf qu'il se déneigera pas tout seul, par exemple.
Ouais. Garde tes mitaines pas loin. Louez le Nissan Rogue S 2026 à traction intégrale à partir de 0,9% jusqu'à 36 mois. Jusqu'au 2 janvier, des conditions s'appliquent sur approbation de crédit. Détails chez Nissan.
L'entrepôt de liquidation ADM Sport, vous connaissez? 7 jours sur 7, obtenez des prix incroyablement bas sur les plus belles marques de vêtements et d'accessoires pour motoneige, quad et moto. ADM Sport, c'est tout, tout, tout ce que tu aimes. L'entrepôt de liquidation ADM Sport, boulevard Amel, Québec.
Hey! Salut! C'est encore moi, ton sommeil. Bon, là, c'est le temps des fêtes. L'équipe festive de Dormez-vous m'a demandé de vous rappeler que c'est aussi le temps de dormir. Hein? Oui, il y a des portions de dinde à digérer, il y a des pyjamas drôles à essayer, il y a des siestes à faire dans la pile de manteaux sur le lit. Le cadeau à donner, c'est moi, le sommeil. Attends de me voir emballé. Là.
Vous aussi serez emballé quand vous allez profiter de 25 % de rabais sur presque tout pendant le solde des fêtes. En ce moment, seulement chez Dormez-vous. Les conditions s'appliquent.
Prochain gros lot du Lotomax, 80 millions plus 14 max millions. Donc, si vous gagnez avec un groupe de 80 personnes, tout le monde devient millionnaire. Un million pour toi, un pour toi, un pour toi.
Tu cherches le cadeau idéal pour l'amateur de voitures? L'International de l'Auto de Québec. Achète tes billets pendant qu'ils sont en promotion. Ne tarde pas, l'offre est d'une durée limitée. Procure-toi tes billets dès maintenant au internationaldelautodequebec.com. L'International de l'Auto de Québec, du 3 au 8 mars, au Centre de foire d'Exposité. Une présentation d'IA Assurance Auto et Habitation en collaboration avec la Banque Scotia.
Floralie Jouvence, c'est le plus beau magasin de Noël à Québec et Lévis. Épatez vos convives avec la plus belle variété de décorations au style unique et le plus grand éventail de sapins naturels et artificiels. Ouvert les soirs en semaine jusqu'à 21h.
Pour les fêtes, le Spa des Neiges vous gâte. À l'achat d'un certificat cadeau de 150 $, on vous donne gratuitement un accès au bain après 16h, 7 jours sur 7. Faites vite, la promo se termine le 24 décembre et votre accès gratuit reste valide pendant un an. Spa des Neiges, offrez le bonheur.
Sanivac est maintenant dans ta région, avec le plus grand inventaire de toilettes au Québec. De la petite toilette portative en plastique jusqu'à nos grandes roulottes sanitaires prestigieuses flambant neuves, nous avons ce qu'il te faut. Sanivac t'offre du confort partout, peu importe la météo. Chauffage, air climatisé, les toilettes les plus confortables, là où tu t'y attends le moins. Propre, fiable, livraison en 24 heures et service d'urgence. Que ce soit sur un chantier ou pour un événement, choisis Sanivac. Inventaire, service, qualité.
Chez Netrice, nous sommes les experts de la paye au Québec. Depuis plus de 45 ans, nous accompagnons fièrement les entreprises d'ici. Propulsés par CGI, nous offrons une infrastructure technologique robuste et sécuritaire. Confiez la gestion de votre paye à nos spécialistes afin de maximiser votre efficacité et de libérer votre temps pour l'essentiel. Essayez Netrice dès maintenant. Le premier mois est gratuit. Certaines conditions s'appliquent. Rendez-vous sur netrice.com. N-E-T-H-R-I-S.com. Netrice, bien plus que logiciel de paye.
Radio X Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Files, dernière de la saison 2000, automne 2025, parce qu'il y aura la période des fêtes. Christian Page, ce soir, on s'intéresse aux questions du public. Entre autres, est-ce que les sonneurs d'alerte concernant les ovnis, est-ce que ça a de la valeur? Quelle importance on peut donner à ces gens-là?
Voilà. Et là, on est toujours un peu dans la foulée de ce fameux documentaire à l'âge de la transparence, là, The Age of Disclosure, ce fameux documentaire qui est disponible sur Prime. Dans ce documentaire, on voit des sonneurs d'alerte. Donc, des gens qui disent, bon, ben, il y a des histoires d'OVNI, puis je connais quelqu'un, puis j'étais impliqué dans tel projet. Ben, et là, la question me dit, un auditeur me dit, est-ce que tous ces gens-là mentent?
Oui, c'est
ça. La réponse est non. Tous les gens ne mentent pas. Hein, bon, je pense que il faut quand même faire une espèce de décompte un peu. Il y a lorsque l'on parle de ces gens, les fameux sonneurs d'alerte, ce sont dans bien des cas des gens qui ont été dans certaines positions au sein du département de la défense, l'armée ou peu importe. Et ça, donc là, ces gens-là ont des récits à raconter.
Oui.
Donc, faisons la part des choses. Il y a les récits qui sont, disons, des expériences empiriques. Hein, donc, des gens qui ont vécu des expériences directement avec les ovnis. Ce ne sont pas vraiment des sonneurs d'alerte. Ce sont simplement des témoins qu'on nous présente comme étant très crédibles. Bon, il y a toujours la valeur que vaut le témoignage. Hein. Quand on n'a pas une preuve matérielle, on sait, bon, les sciences, je sais que ça fait toujours un peu réagir, mais les sciences cognitives, c'est pas moi qui le dis, là, mais les recherches, les sciences cognitives montrent très clairement qu'à partir du moment où si l'observateur ne sait pas ce qu'il observe, toutes ces évaluations en termes de distance, de vitesse, de mouvement, tout ça risque d'être erroné. Devant l'inconnu, on est tous égaux, et que l'on soit pilote de F-18 ou chauffeur de taxi. Donc ça, je sais que ça fait réagir les gens. Mais c'est pas moi qui le dis. Toutes les recherches sur des sciences cognitives vont dans ce sens-là. Maintenant, ça veut pas, même si les gens ont pu être abusés par leur sens, ça veut pas dire qu'ils sont malhonnêtes pour autant. Là, on se comprend bien. Donc, dans les témoignages, si on revient un peu à ce documentaire, on a des témoignages intéressants. L'un d'entre eux, par exemple, celui de David Fravor, qui est un ancien pilote. Maintenant, il est retraité, mais il était pilote dans la US Navy. Et en 2004... il y a eu une série d'incidents OVNI qui se sont produits au large de San Diego, sur la côte ouest américaine. Et David Fravor, qui était à bord d'un F-18 de mémoire, s'est lancé à partir du USS Princeton, qui était le navire, le porte-avions, où on avait détecté ces fameux OVNI. Il y avait des avions qui étaient en vol, dont celui de Fravor. Et on lui a dit, ben voilà, on a dans tel ou tel vecteur dans le ciel, on a la présence de ces objets. Et Fravor dit, ben voilà, j'ai dirigé mon appareil et là, j'ai vu une espèce d'OVNI en forme de tic-tac, les fameuses pastilles qui flottaient au-dessus de la mer. Il y avait un tourbillon dans l'eau et là, je me suis approché avec mon appareil puis l'objet s'est envolé très rapidement. On ne remet pas en question ici l'honnêteté de David Fravor. Je n'ai aucun doute que David Fravor raconte ce qu'il croit avoir vu. Maintenant, a-t-il réellement vu ça? Dans quelle mesure son récit est coloré? Parce qu'il faut quand même le dire, l'événement s'est produit en 2004. Et quand il raconte cet événement-là aujourd'hui, il faut quand même se rappeler qu'il y a 21 années qui se sont écoulées. Et la première fois qu'il en a parlé là, de façon publique, c'était en 2017-2018. Donc, on était quand même une quinzaine d'années après les faits. Là, t'sais. Donc, il faut quand même se méfier de ça. Là. Avec le temps, le souvenir se colore. Mais ça ne remet pas en question la bonne foi de David Fravor. Il raconte ce qu'il croit réellement avoir vu. Il faut faire attention parce que dans la même journée, un peu plus tardivement dans cette journée, un autre pilote sur un avion qui pilotait un F-18 a capté un écho radar sur son appareil puis il l'a filmé. Puis là, on voit un objet qui se tient devant, en s'est tourné en infrarouge, donc on voit une espèce d'objet qui émet une chaleur plus importante. C'est pourquoi il apparaît comme une grosse tache noire là, sur l'écran. Et cet objet, lorsque l'on parle du témoignage de David Fravor, on nous montre souvent cette vidéo-là. Non. Cette vidéo-là n'a pas été tournée par David Fravor. Elle s'est produite, la vidéo a été tournée le même jour dans un autre secteur du ciel. Ça pourrait ne pas être aussi l'objet observé par David Fravor. Donc, il faut être prudent. Dans le cas de l'observation spécifique de David Fravor, on n'a pas de données télémétriques très précises. On n'a pas une capture d'écran ou d'un radar ou quoi que ce soit dans ce sens-là. Donc, mais cela étant dit, le témoignage, il est tout à fait honnête puis tout ça. Donc, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Et dans le cas de David Fravor, on ne parle pas vraiment d'un sonneur d'alerte. On parle d'un témoin qui raconte une expérience qu'il juge, lui, tout à fait extraordinaire et que, de son interprétation, cet objet-là ne pouvait pas être d'une technologie terrestre. Donc, on respecte ça, okay. C'est son opinion. Bon, le sonneur d'alerte, lui, c'est autre chose. C'est le type qui connaît quelqu'un ou un dossier ou il a une information qualitative sur une histoire, il la raconte. Dans le cas de ce documentaire, L'âge de la révélation, on en a plusieurs. Le principal, c'est un type qui s'appelle Luis Elizondo, qui se présente comme un ancien agent du service des renseignements. Bon, j'en avais parlé lorsqu'on avait critiqué cette émission. Luis Elizondo a une façon un peu bien à lui de rehausser son CV lorsqu'il se décrit. Mais cela étant dit, il y en a d'autres sonneurs d'alerte dans ce documentaire. Et encore une fois, est-ce que ces gens-là mentent? C'est bien difficile d'abord de savoir pourquoi ils racontent ces histoires-là. Souvent, ils peuvent avoir un agenda qui nous est un peu inconnu. Pourquoi le font-ils? Bon, je ne sais pas. Ils peuvent également chercher une espèce de reconnaissance. Là. Puis ça se peut aussi qu'ils racontent une histoire qui soit vraie. Le problème, quand ils racontent une histoire qui est peut-être vraie, hein, mettons ça entre guillemets, c'est qu'ils n'ont, jusqu'à maintenant, ces sonneurs d'alerte, mis à part de bien belles histoires, n'ont jamais apporté la moindre preuve de ce qu'ils disent. Hein. Voilà, donc je connais quelqu'un qui travaille, par exemple, chez Lockheed Martin aux États-Unis, qu'ils ont récupéré un OVNI, puis il m'a dit qu'on avait déconstruit cet OVNI-là pour appliquer de la technologie sur des avions. Bon, c'est une bien belle histoire, c'est bien fantastique, mais où sont les preuves de ça? On l'a pas, la preuve. Et ce qu'il faut faire attention ici, c'est que, dans certains cas, ces histoires-là pourraient être des dérivés de véritables histoires. Je vais te donner un exemple, puis je pense que les gens comprendront un peu comment sans comment le téléphone arabe peut transformer les faits. Là.
Ouais, c'est pas trop long.
Donc, non, dans les années 50, fin des années 50, début des années 60, c'était l'âge d'or de la conquête de la Lune. Hein. C'était le bras de fer qui se jouait entre l'Union soviétique et les Américains pour qui seraient les premiers à arriver sur la Lune. Et les Soviétiques, à ce moment-là, ils ont, faut-il le rappeler, hein, le 4 octobre 1957, ils ont été les premiers à mettre en orbite un satellite artificiel. On parle de Sputnik 1. Et ensuite, ils ont aussi été, en avril 1961, les premiers à envoyer un cosmonaute dans l'espace. À travers tout ça, autant par les satellites artificiels que les cabines habitées, hein, parce qu'avant d'envoyer un cosmonaute, ils ont envoyé aussi un chien, le Laika. On a développé des cabines monoplaces, okay. Et ensuite des cabines biplaces. Et ces cabines-là, bon, c'était d'abord des Vostok, puis ensuite c'est devenu des Soyouz, ils ont changé de nom, mais c'était des cabines qui pouvaient recevoir un équipage. Les Soviétiques ont procédé à de nombreux lancements de ces vaisseaux-là. Tous n'ont pas connu le succès. Hein. Certains satellites sont retombés, certains essais avec des capsules Vostok ou Soyouz sont retombés également. On n'a pas réussi à les satelliser. Et à ce moment-là, les Américains, comme c'était ce bras de fer qui se jouait entre les États-Unis et l'Union soviétique sur qui seraient les premiers arrivés sur la Lune, parce que bon, les Américains ont compris qu'ils n'étaient pas les premiers arrivés dans l'espace. Les Russes les Soviétiques les avaient devancés. Oui. Ils ont poussé plus loin le bouchon en disant bon, « OK, on n'est pas les premiers dans l'espace. Est-ce qu'on sera les premiers à sortir d'un vaisseau spatial dans l'espace? » Non. Hein, avant eux, le premier homme à marcher dans l'espace, le premier Américain à marcher dans l'espace, c'est Edward White. Mais il avait été précédé quelques mois plus tôt par un Soviétique, Titov, qui était sorti d'un vaisseau Soyouz. Okay. Donc, les Américains n'ont pas été les premiers à marcher dans l'espace. Donc, ils poussent encore plus loin le bouchon. « OK, on n'est pas les premiers dans l'espace. On n'est pas les premiers à sortir d'un vaisseau dans l'espace. » Mais j'ai dit Titov, tantôt c'est Leonov, le nom me revient, là. C'est Leonov qui avait été le premier soviétique à sortir d'une capsule. Et ensuite, on s'est dit, bon, ben, est-ce qu'on sera les premiers sur la Lune? Donc, on comprend, on avait ce bras de fer qui se jouait. Oui. Et les Américains avaient mis de l'avant. Comme certains des vaisseaux soviétiques, parce que les Soviétiques avaient quand même un petit peu d'avance sur ce qu'on, à tout le moins, dans l'imaginaire des Américains, les Soviétiques avaient un pas d'avance sur l'espace. Hein, et on se disait, mais qu'est-ce qu'ils ont, c'est quoi la technologie qu'ils ont pour réussir à être mieux que nous? Hein, parce que, en fait, ce qu'on a découvert, c'est que les Américains étaient tout simplement plus prudents. Les Soviétiques étaient un peu cavaliers. Hein. On met un gars dans le vaisseau, puis bon, ben, s'il explose le vaisseau, ben, tant, puis il aurait explosé, tu comprends? Alors que les Américains étaient beaucoup plus mettaient beaucoup plus d'emphase sur la sécurité que les Soviétiques. C'est la seule raison pour laquelle les Soviétiques avaient devancé les Américains. Mais néanmoins, les Américains, dans l'imaginaire, on se disait peut-être que les Soviétiques ont une technologie que nous, on n'a pas. Et les Américains ont mis, à partir du début des années 60, quand on a commencé à parler de cabines habitées, hein, avec des équipages, les Américains avaient mis de l'avant un programme qui s'appelait le projet Moondust. Et Moondust, ben, c'était un projet qui visait à récupérer des engins spatiaux soviétiques. Donc, on suivait ce que les Soviétiques faisaient. Et si un satellite artificiel retombait, puis il retombait pas en Union soviétique, les Américains voulaient être les premiers sur place pour récupérer cette technologie et voir quel était l'avancement des Soviétiques dans le domaine de l'aérospatial. Puis ça, ils ont fait également avec les capsules Soyouz ou Voskhod. On voulait récupérer ces engins-là. Donc, replaçons-nous un peu dans le contexte. On est dans les années 60. Les Américains ont mis de l'avant le projet Moondust. Et le projet Moondust vise à récupérer des engins spatiaux soviétiques qui retombent sur Terre. Alors, imagine-toi, là, imagine un petit scénario amusant, là, hein, une conversation de taverne. Hein, on est dans le bus, hein, une oui, conversation oui. de bar, de comptoir. Et là, on dit, moi je connais, oui. Bon, on jase. Là. Moi je connais un gars. Hein, le gars dit, moi je connais un gars qui travaille pour le compte de l'armée américaine, dont le travail consiste à récupérer des engins spatiaux soviétiques. Et le même gars qui entend cette conversation-là la raconte le lendemain soir au même bar avec un autre interlocuteur. Il dit « Hey, je connais un gars qui m'a raconté que son beau-frère travaillait pour l'armée et dont la job était de récupérer des vaisseaux spatiaux.
Ouais. »
Et là, le même gars, lui, deux jours plus tard, raconte la même histoire. Il dit « Il y a un gars qui m'a raconté d'un bar qui connaissait un gars dont le beau-frère avait pour job de récupérer des engins spatiaux extraterrestres.
Ouais, » ouais, c'est ça.
Tu comprends comment on est parti d'une histoire qui était bien réelle. Et simplement, du bouche à oreille, l'histoire s'est un peu déformée et le vaisseau spatial soviétique est devenu un vaisseau spatial extraterrestre. Donc, il est possible que certains sonneurs d'alerte, lorsqu'ils racontent ces histoires-là, parce que bien souvent, quand on écoute leurs témoignages, c'est très souvent des oui-dire. Je connais quelqu'un qui m'a raconté l'histoire. Mais dans quelle mesure l'histoire qui est racontée, elle est fiable? Dans quelle mesure cette histoire-là n'a pas tout simplement été déformée avec le temps? Encore une fois, ça se peut, hein? On laisse la porte ouverte. C'est bien possible que tous ces programmes-là de rétro-ingénierie, de récupération d'engins spatiaux extraterrestres existent. Mais la question, encore une fois, c'est la prudence. Et la prudence, c'est de dire, ben OK, mais où sont les preuves? Et tant aussi longtemps qu'on n'aura pas ces preuves, ben, ou bien on va adhérer à l'idée d'une espèce de scénario complotiste, hein? Le gouvernement nous cache tout, puis c'est tout, ou bien on reste sur nos positions, puis on dit, bon, ben, attendons, restons prudents. Et attendons de voir des preuves avant de porter un jugement définitif. Donc non, je ne crois pas que les sonneurs d'alerte mentent. Certains d'entre eux le font certainement pour différentes raisons, des raisons pécuniaires, des raisons de popularité. Mais je crois que certains sonneurs d'alerte racontent des histoires qu'ils ont entendues, des histoires qu'ils croient véridiques. Ils les racontent telles qu'ils l'ont perçues, mais qui ont pu, avec le temps, être un peu déformées. Donc restons ouverts, mais en même temps prudents. Même si on voudrait aussi croire là, l'idée de la soucoupe qu'on déconstruit et tout ça. Mais bon, restons prudents.
On est loin de ça.
Oui, c'est ça. Donc, avant de nous quitter, hein, je vois que le temps file, mais oui. Il y avait une dernière question qui correspondait un peu à un moment spécifique. Aujourd'hui même, aujourd'hui même, cette semaine, hein, on fêtait le 9 décembre 1965. Si on regarde, on était, c'est 55 ans, 60 ans, on était 60 ans plus tard. Donc, cette année, donc, le 9 décembre 1965 marquait un événement qui a beaucoup, qui avec le temps, hein, à l'époque, c'était passé à peu près inaperçu, mais avec le temps, est devenu très important dans l'univers des ovnis. Donc, on fêtait le 60e anniversaire cette année. C'est un incident qu'on appelle l'incident de Kecksburg. Donc, des gens m'ont écrit cette semaine en me disant, oui, bon, ils ont vu passer dans les médias sociaux des informations disant, on est 60 ans après l'événement de Kecksburg, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, l'incident de Kecksburg, je vais le résumer rapidement, là, on est le 9 décembre 1965, en après-midi. Hein, donc, voici la version officielle, entendons-nous.
OK, oui.
Donc, en fin d'après-midi, le 9 décembre 1965, il y a un gros bolide, là, un météore, qui est entré dans l'atmosphère terrestre à la hauteur à peu près des Grands Lacs. Il a traversé une partie du ciel du nord, du sud du Canada, mais également du nord-est des États-Unis. Et à un moment donné, l'objet va disparaître quelque part au-dessus de la Pennsylvanie. Et bon, là, des gens diront, on l'a vu changer de trajectoire, ça reste encore à vérifier, mais bon, grosso modo, il y a ce gros météore qui entre dans le ciel, qui est confirmé hein, par l'ensemble des systèmes d'observation, par les astronomes qui l'ont observé. Il n'y a aucun doute. Là. On a une grosse météorite, d'ailleurs, ça fait l'objet de plusieurs publications dans des périodiques qui se consacraient à l'astronomie. Hein, cet après-midi du passage du grand météorite au-dessus... du grand météore, hein, parce que on n'est pas sûr s'il est tombé à terre, là, mais le grand météore du nord des États-Unis là, qui a traversé le ciel. Donc, on a eu de nombreux articles. Cette même journée, en fin d'après-midi, bon, j'ai dit, il aurait changé de trajectoire. Il y a aussi, à un moment donné, dans le même discours, il y a des articles qui ont été publiés que quelque part en Ohio, il y a eu un incendie qui s'est déclenché, puis on a accusé le météore d'avoir laissé tomber des étincelles qui auraient mis le feu. Là. Encore une fois, est-ce que c'est une coïncidence? Un feu se déclare, puis on accuse le météore. Bon, ça reste... C'est anecdotique, c'est amusant, c'est rapporté dans la presse. Et dans cette même journée là, du 9 décembre, il y a une dame qui va contacter une radio locale. On est en Pennsylvanie, hein, et c'est une dame de Kecksburg, une petite ville de Pennsylvanie. Et elle appelle donc une radio locale pour dire qu'il y a un objet qui est tombé derrière sa ferme. Elle dit, bon, l'objet est tombé dans le boisé et elle dit qu'elle peut même voir une colonne de fumée qui se dégage de l'endroit où l'objet est tombé. Alors, et là, c'est la version officielle que je te raconte. Et elle dit, bon, ben voilà, il y a cet objet. Les policiers, la police de l'État va se rendre sur place, vont créer une espèce de cordon. Et là, ils vont envoyer des gens dans le bois pour essayer de trouver l'objet qu'ils ne trouvent pas. Et en fin de journée, bon, l'armée va prendre des militaires d'une base locale vont prendre le relais. C'est pas un gros contingent, là. Hein.
Non,
officiellement, c'est trois militaires d'une base locale qui viennent simplement en renfort à la police de l'État pour voir si un objet est tombé. Et ils ne trouvent rien. Donc, conclusion, non, il n'y a pas d'objet qui est tombé. Parce qu'au début, évidemment, s'il y a un objet qui est tombé, est-ce que c'est un morceau du météore? Parce qu'on sait que le météore est passé au-dessus de la Pennsylvanie. Est-ce que c'est un morceau du météore ou le météore lui-même, qui là, à ce moment-là, ne serait plus un météore, mais un météorite s'il est tombé au sol? Ou bien, est-ce que ça peut être aussi, par une simple coïncidence, en même temps que ce météore traverse le ciel, est-ce qu'un petit avion, par exemple, pourrait être tombé dans le boisé? Hein, c'est possible aussi. Certains vont dire, oui, ça pourrait aussi être une soucoupe volante. C'était le nom qu'on donnait aux ovnis à l'époque, une soucoupe volante, et peut-être aussi un engin soviétique. Hein. On est toujours un peu dans cette idée de la guerre froide, un engin soviétique qui est tombé. Mais en fin de journée, donc, on ne trouve rien dans le boisé, et puis on dit, bon, ben voilà, il n'y a rien qui s'est produit, on n'a rien trouvé. Donc, c'est une espèce d'extrapolation. Probablement que la dame a vu le météore, que le météore est disparu derrière la colline, et elle a cru qu'il était tombé dans le boisé. Merci, bonsoir. Donc, l'affaire... C'est quelques heures, hein, cette excitation autour de Kecksburg, c'est quelques heures en décembre 1965. Et ensuite, l'histoire tombe, est morte au feuilleton, disons, c'est comme ça.
Okay.
Et puis, quelques années plus tard, il y a un enquêteur local, un type qui s'appelle Stan Gordon, qui développe un intérêt pour la question des ovnis. Et puis, il va tomber sur des articles de journaux parlant de cet après-midi où un grand météore a survolé la Pennsylvanie. Et là, ben, il apprend que des gens disent qu'il serait tombé dans un boisé. Et là, ben, évidemment, ça alimente énormément son intérêt. Il va lancer un appel à tous en disant « S'il y a des gens qui ont vu ça, j'aimerais que vous me contactiez. » Et il va recevoir donc un appel d'un pompier volontaire qui lui raconte... Là, est-ce que l'histoire est vraie? Là, on n'est plus dans la version officielle, on est dans une version officieuse. Donc, ce pompier volontaire dit « Ah oui, moi, je travaillais à la caserne de Kecksburg et quand l'objet est tombé, entre le moment où les policiers étaient sur place et le moment où l'armée est arrivée, moi, je suis allé dans le boisé et à la recherche de l'objet et là, j'ai vu un objet écrasé au sol qui ressemblait à une grosse noisette qui faisait 3 ou 4 mètres de diamètre et puis il semblait de couleur un peu cuivrée. Il y avait une espèce de renflement sur l'objet avec des symboles qui ressemblaient un peu à de l'écriture égyptienne, les fameux hiéroglyphes. Et là, il dit, bon, l'armée est arrivée, puis bon, ils ont cerné l'endroit. Et puis là, il dit, quelque part, on a récupéré l'objet, on l'a remis sur un camion qui serait parti vers une destination inconnue.
Okay.
Et là, à partir du moment où cette histoire-là est racontée, d'abord à la radio, mais ensuite, elle va faire l'objet d'un reportage au tournant des années 2000 dans Unsolved Mysteries, qui est une émission très importante aux États-Unis. D'autres gens vont sortir de l'ombre en disant « Oui, je connais quelqu'un qui a vu l'objet » ou « Mon beau-frère a travaillé sur l'objet bon, ». Donc là, l'histoire prend vie d'elle-même. Là. Bon, et grosso modo, c'est cette histoire de Kecksburg. Est-ce qu'il y a réellement un objet qui est tombé dans le boisé de Kecksburg? Pas selon la version officielle. Selon une version officieuse, apparemment, cet objet aurait été récupéré, amené dans une base. Mais là, encore une fois, on tombe malheureusement dans cette fameuse dynamique de « mais où sont les preuves? » Et entre le fait de parler d'un engin extraterrestre qui aurait pu tomber dans le boisé de Kecksburg et de parler d'un vulgaire météore qui aurait traversé le ciel et qui aurait émerveillé plein de gens et donné naissance à une légende, il y a toute une gamme d'autres hypothèses qui peuvent être envisagées. Justement, je t'ai parlé du projet Mundust. Ben, tu sais, si on regarde des vaisseaux Soyouz, par exemple, ben, les vaisseaux Soyouz soviétiques ressemblaient à une grosse noisette. Et l'écriture cyrillique, ben, pour quelqu'un qui n'en a jamais vu, ça peut ressembler à des hiéroglyphes égyptiens.
Oui.
Tu comprends?
Oui, oui.
Donc, imagine, là, par exemple, si mettons que les Soviétiques auraient, si l'objet tombait à Kecksburg, par exemple, par une étrange coïncidence, s'était produit en même temps que le ciel a été traversé par un gros météore et qu'en même temps, un engin soviétique aurait raté sa mise en orbite et serait tombé dans un boisé, ben, la description qu'on en fait, un objet un peu métallisé qui ressemble à une noisette avec un renflement sur lequel il y a de l'écriture un peu étrange, ben, ça ressemble étrangement à un Soyouz soviétique. Donc, ça pourrait aussi être un engin soviétique. Ça peut être un engin extraterrestre aussi, là, entendons-nous. Là. Mais on comprend qu'on a une gamme d'hypothèses pour lesquels on n'a absolument aucune preuve. Ce que l'on sait, c'est de la version officielle, et ça, c'est acquis. Il y a un gros météore qui a traversé le ciel du nord-est des États-Unis à ce moment-là et qui aurait pu être à l'origine de toutes les histoires ensuite qu'on a galvaudées autour de l'affaire de Kecksburg. Ça reste pour l'instant une affaire qui est un peu un incident phare dans l'histoire des ovnis américaines, l'affaire de Kecksburg, mais encore une fois, une histoire pour laquelle on a beaucoup de témoignages, souvent de deuxième, de troisième main. Hein. C'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Mais on n'a pas l'objet. On n'a donc pas aucun échantillon de l'objet qui permet de conclure à une explication plus exotique ou plus rationnelle. On n'a rien. Donc, voilà. C'est ma position par rapport à l'affaire de Kecksburg. Je le sais pas. Honnêtement, je le sais pas. Mais j'ai tendance à croire que, avec toutes ces années, tous les gens qui auraient été impliqué s'il s'agissait de la récupération d'un engin extraterrestre. J'aurais aimé voir une preuve à cet effet-là, ce qu'on n'a pas, on n'a toujours pas. Puis c'est un peu d'ailleurs le talon d'Achille dans des théories du complot. C'est souvent ces théories du complot, quand on les gratte un peu, on comprend qu'il aurait fallu l'implication de centaines, sinon de milliers de gens. Et des centaines ou de milliers de gens qui gardent le secret pendant 2 jours, c'est possible, mais des centaines de milliers de gens qui gardent le secret pendant 60 ans, ça devient moins vraisemblable.
C'est absolument. En tout cas, ça nous démontre qu'en 2025, Christian, on n'aura pas eu la preuve de vie extraterrestre ou de visite.
De visite extraterrestre, non, c'est ça. Absolument pas. Mais restons l'esprit ouvert. Ce sont des sujets qui sont quand même fascinants.
Tout à fait. C'est tout le temps qu'on a. Il me reste à te souhaiter un très beau temps des fêtes, une très belle année de 2026, parce qu'on va se reparler, en janvier 2026.
Donc, même chose également à toi, même chose également à tous les auditeurs. Donc, passez de joyeuses fêtes. Si vous prenez un verre, ne conduisez pas, même si c'est une soucoupe volante. Et on se retrouve en janvier.
Parfait. Merci beaucoup, Christian.
Ça marche. Bye. Salut, ciao.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X. Capsule.
Radio X.
Rôtisserie Fusée. Pas le temps de faire à souper? Pas de problème. Gâtez-vous avec le duo des fêtes, cuisses et poitrine pour seulement $19.99 au comptoir. Des frais de livraison s'appliquent. Rôtisseriefusée.com. Beauport Nissan est fier de s'impliquer dans la guignolée des médias et ainsi soutenir les banques alimentaires qui font une différence dans nos communautés. Tout le mois de décembre, vos deux concessions Nissan recueilleront vos denrées non périssables et vos dons en argent. C'est la période des fêtes chez Tanguay, le moment idéal pour trouver les meilleurs cadeaux ou vous gâter un peu. Jusqu'au 17 décembre, à l'achat de $1,250 ou plus de produits sélectionnés, on vous offre jusqu'à $1,000 en carte promo Tanguay. Tanguay, on meuble vos traditions. Aux épices du guerrier, on vous propose des tas d'idées cadeaux pour tous les budgets. Pas facile de plaire à la belle-mère, au cousin ou même à sa douce moitié? Passez-nous voir à la boutique du guerrier, coin de la Faune et boulevard de la Colline. Des épices originales, savoureuses et faites chez nous, ça fait vraiment plaisir à recevoir. Épicesduguerrier.com.
Exporte Auto, c'est le nouveau nom à retenir pour acheter ta nouvelle voiture. C'est certain qu'on est moins cher qu'ailleurs et on a toujours du nouveau qui arrive. Pourquoi payer plus ailleurs? Chez nous, c'est moins cher. On est là pour vous. 2703 Président Kennedy ou exporteauto.com.
Maison Adam.
Profitez des soldes d'après-Noël anticipés avec les experts de Maison Adam. Économisez jusqu'à 30% sur des produits prisés de Sonos, incluant la barre de son Arc Ultra et le haut-parleur Move 2. Passez voir les experts de Maison Adam au 710 rue Bouvier ou visitez maisonadam.ca pour une expérience clé en main au meilleur prix garanti.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Dominant ou dominé? N'hésitez plus, venez faire votre choix parmi une vaste collection de produits BDSM et fétiches chez Sensation Plus. Partagez le plaisir. SensationPlus.com. Livraison rapide et discrète.
Passionné de lisse, la Skifolie fait son grand retour chez Sport Expert et Atmosphère. Obtenez jusqu'à 40% de rabais sur les skis alpins et skis de fond en liquidation. Détail en magasin. Sport Expert d'ici.
Raif Badawi. Enchaîné. De Magaï Mathiop. Enchaîné. De Bernardo Calxol. Enchaîné. De Sacha Skocilenko. Enchaîné. De Netnara. Enchaîné.
Amnesty International enchaîne les libérations. Grâce à vos lettres, le jugement de plus de 127 personnes injustement emprisonnées a été renversé. Participez au marathon d'écriture sur amnistie.ca. Parce qu'écrire, ça libère pour vrai.
Floralie Jouvence, c'est le plus beau magasin de Noël à Québec et Lévis. Épatez vos convives avec la plus belle variété de décorations au style unique et le plus grand éventail de sapins naturels et artificiels. Ouvert les soirs en semaine jusqu'à 21h.
Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à sous primés. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super!
C'est juste pour jouer.
Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer.
19 plus. Jeu gratuit uniquement. Jouer de façon responsable.
Ébénisterie Saint-Pierre, c'est plus de 45 ans d'expertise. On réalise vos projets résidentiels, commerciaux ou même en sous-traitance. Ébénisterie Saint-Pierre, c'est des prix compétitifs, aucune surprise, aucun frais caché et une livraison toujours à date prévue. 88 871 69 38.
Cette année, pour vos achats des fêtes, mettez la main sur la revue Magie des fêtes avec Gladius et ses partenaires. Et des cadeaux, nouveautés, conseils pédagogiques, articles, tout y pour faciliter votre magasinage. Récupérez votre copie dans les restaurants Normandin et les IGA.